J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André Dimbouji, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de rester fidèle, la radio Okapi et merci de rejoindre dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Plusieurs écoles d'application et d'app à travers le pays se disent non concernées par la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le responsable de ces établissements évoque le statut juridique de ces écoles qui fonctionnent conformément à l'ordonnance loi numéro 081/160 de 1981. Portant statut de personnel de l'enseignement supérieur universitaire en son article 1. Ils estiment que c'est de l'autorité du ministère de l'Essu de fixer les taux des frais scolaires dans ces écoles. Alors, qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec nous et ensemble avec tous les compatriotes à travers le pays et à l'étranger sur notre page Facebook. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa, Pierrot Elameji et Nico Kalambay concourent à la production et à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons en premier le professeur Labama, un ancien recteur de l'université de Kinshasa, une grande université qui a eu, qui a donc la charge d'ailleurs d'une grande école d'application qu'on appelle notamment les groupes scolaires Mohamba. Professeur Labama, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je m'appelle professeur Labana Nassayaba, pas Labama.
Labana, excusez-moi. Labana. Professeur Labana, voilà, excusez-nous pour avoir massacré les noms. Alors, vous êtes un habitué de cette émission. Professeur, aujourd'hui, en quoi consiste réellement la tutelle de l'université, pardon, des écoles, l'école telle que Mohamba, sous tutelle de l'université de Kinshasa? En quoi consiste cette tutelle?
La tutelle consiste en ce que le comité de gestion de l'université de Kinshasa, qui gère l'école, et c'est le comité de gestion de l'université de Kinshasa qui nomme le comité de gestion des groupes scolaires Mohamba. Et le personnel sont gérés aussi par le secrétariat général administratif de l'université de Kinshasa, ce qui veut dire tous ces enseignants, le personnel administratif des groupes scolaires Mohamba, ils ont les matricules de l'université de Kinshasa en dehors des matricules de la fonction publique. Comme tout le personnel de l'université, ils ont deux matricules, matricule de l'université et matricule de la fonction publique. C'est pour vous dire que tous ces agents sont payés par les trésors publics.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces écoles d'application sont considérées comme des services spécialisés du département de l'enseignement supérieur et universitaire?
Non, pas comme service spécialisé. Ils sont considérés comme un service d'application de la faculté des sciences de l'éducation et psychologie de l'université pour permettre aux étudiants pour aller faire leur stage et pour aussi plus tard animer aussi, n'est-ce pas, les enseignements au niveau de cette structure-là. C'est une structure qui dépend de rectorat de l'université de Kinshasa.
Donc c'est les recteurs qui peuvent nommer et révoquer les comités de gestion de ces écoles.
Voilà, c'est le comité de gestion de l'université de Kinshasa qui nomme et qui révoque.
Alors, qui fixe le taux des frais scolaires pour les écoles d'application?
Bon, vous l'avez bien lu, le premier article, c'est le ministère de l'Intérieur, par délégation, c'est l'université. Le comité de gestion se met ensemble avec le comité des parents, n'est-ce pas, pour discuter les taux qu'on doit fixer pour payer. Il y a un taux pour les enfants de l'intérieur de l'université, il y a un taux pour les enfants qui viennent de l'extérieur que leurs parents ne travaillent pas à l'université. Voilà. Le taux est fixé en commun accord. Le comité de gestion et le syndicat, le comité de gestion du groupe scolaire Mohamba, le syndicat des professeurs et des administratifs, et vous avez le secrétariat général de l'université qui représente le comité de gestion dans les négociations pour fixer les taux, des taux de Minerval.
Et depuis des années, ça a toujours fonctionné comme ça, parce que si j'ai fait bien mes calculs, depuis que l'ordonnance loi a été promulguée en 1981, jour pour jour, ça fait aujourd'hui plus de 28 ans, si mes calculs sont bons, ou 30 ans pratiquement. Alors 30 ans ces écoles fonctionnent conformément à cette ordonnance loi. Les problèmes ne s'est jamais posé. Aujourd'hui que il y a cette gratuité qui a été décrétée, les parents préfèrent ne pas payer. Est-ce que c'est logique?
Ok, je crois que l'environnement a changé, n'est-ce pas? La loi que vous avez citée tout à l'heure doit aussi subir certaines modifications conformément à la décision du président de la République. Parce que l'enseignement primaire de base, nous avons le maternel, nous avons les primaires et les secondaires, n'est-ce pas? Donc, il faut adopter le fonctionnement de cette école conformément à la vision des chefs de l'État. Et là, se demande des négociations entre le ministre de l'enseignement supérieur qui doit présenter les cas au sein du gouvernement, n'est-ce pas, pour qu'on trouve une solution pour que ces écoles bénéficient aussi de la gratuité au niveau de l'école, de l'enseignement de base, et que l'État finance, donne les frais de fonctionnement. Et on va trouver un commun accord, n'est-ce pas. On ne peut pas dire tout simplement écarter les structures de spécialité des universités qu'on a créées. Il faut les prendre aussi en charge. Ça, c'est mon point de vue.
Voilà. Alors, donc, vous proposez une bipartite entre les ministères de l'enseignement primaire et secondaire et également les ministères de l'ESSUP pour trouver un intérêt d'attente sur cette question et repenser un peu le mode de fonctionnement de ces écoles d'application.
Exact. Moi, je pense que c'est ce qui doit amener la solution à cette situation de gratuité pour les écoles d'application des universités et instituts supérieurs.
Voilà, nous allons revenir à vous, professeur Labana. Le temps peut-être d'ouvrir les standards avec les auditeurs qui nous ont rejoints pour échanger également avec nous sur cette question. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour participer à cette émission qui parle de cette question de la gratuité au niveau des écoles d'application qui, pour les uns, doivent normalement fonctionner conformément à la loi de 1980 et d'autres qui pensent que cette gratuité décrétée par les chefs de l'État doit également concerner ces écoles. Qu'en pensez-vous?
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
On ouvre le débat avec vous, Trésor, vous êtes à Kinshasa. Trésor Junior, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Après avoir suivi notre invité qui a évoqué cette question au niveau des écoles d'application, donc les statuts de ces écoles, comment ça fonctionne et sa proposition d'une négociation entre les deux ministères concernés au niveau de cette éducation, qu'est-ce que vous avez comme proposition?
Bon, JR, je suis tellement content de ce débat, de cette thématique du jour. Pour moi, la gratuité telle qu'est prêchée, prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, doit être envisagée à tous les degrés. Donc, même au niveau de ces écoles-là qui sont sous tutelle de certaines universités, notamment l'école qui est sous tutelle de l'Université de Kinshasa, elle doit être prise en charge par l'État dans le cadre de la gratuité. Donc, ça, c'est une bonne chose que nous devons souhaiter, que nous devons saluer. Donc, quant à moi, je pense qu'il faut que ces écoles-là d'application, qu'elles soient aussi prises en charge par le gouvernement congolais. Je m'en vais dire aussi autre chose concernant certaines écoles, notamment les écoles catholiques, qui jusque-là sont en train de faire quoi, de résister à cette idée de la gratuité, qui ne veulent pas en fait s'accrocher à l'idée qui a été prêchée par le président de la République. Je leur dis de pouvoir accepter ce qui a été dit. Pourquoi? Parce que l'idée de la gratuité, c'est une facilité des parents qui doivent en fait voir leurs enfants être encadrés, enseignés. Pourquoi pas? Ce sont des gens qui doivent aussi bel et bien diriger ce pays dans les jours à venir. En tout cas, la gratuité à tous les niveaux, à tous les degrés, c'est quelque chose à saluer. Celui qui voit s'opposer à la gratuité, c'est un petit diable de ce pays ici, de la République démocratique du Congo. Donc, quant à moi, je vous l'ai dit avec franchise que la gratuité à tous les niveaux doit être envisagée. Mais pour ces écoles-là d'application, il faut qu'il puisse y avoir des négociations et que l'État aussi comprenne que ces écoles-là, qui sont sous tutelle des universités, elles doivent être prises en charge par le gouvernement congolais. En tout cas, c'est ça ce que j'avais comme proposition. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Trésor Junior, d'avoir appelé de Kinshasa. Jonas, vous êtes à Kananga. Bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Jonas. Jonas à Kananga qui, la ligne pose des sérieux problèmes. Il y a des auditeurs qui nous ont écrit en disant que le débat fait effectivement rage au niveau des écoles d'application et d'autres. Et il est à la fois technique et administratif. Moamba, par exemple, était un établissement public dérivant de deux tutelles. Tutelle technique de l'enseignement primaire et secondaire, tutelle financière et administrative de l'ESU. Et nous sommes ici en face d'une question qui n'a rien à voir avec la tutelle. La question est celle de la gratuité de l'enseignement primaire tiré de la Constitution, article 43, qui doit être d'application par tout le monde. Il s'agit là des écoles qui sont prises en charge également par l'État congolais, qu'il s'agisse des écoles de l'enseignement supérieur universitaire ou de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette question doit être résolue définitivement. Professeur Labana, cette position, par exemple, d'un auditeur qui nous écrit, qui dit la question, elle est à la fois technique et administrative, parce que c'est vrai, à la fois ces écoles sont sous tutelle du côté technique à l'enseignement primaire et secondaire, et du côté financier et administratif dépend de l'enseignement supérieur et universitaire. Et comment vous réagissez, professeur?
Oui, il peut avoir raison, parce que quand j'étais recteur à l'Université de Kinshasa, j'ai eu un tel problème avec le comité de parents qui voulait que l'école soit directement rattachée à l'enseignement primaire et secondaire. Moi, j'ai brandi les textes qui créent cette école-là. Et on nous a donné raison. On n'a pas pu délocaliser l'école, le Mont Amba vers l'enseignement primaire et secondaire. Et comme ça, nous avons gardé notre statut actuel.
Mmh. Voilà. Voilà. Jérémy nous a également rejoint. Jérémy, vous êtes avec nous à Lubumbashi. Jérémy, bonjour.
Bonjour, monsieur JL. Bonjour également à notre invité. Merci pour le sujet aligné à ce jour, parce qu'il est vraiment pertinent. Et je pense que autrefois, on a allé dire qu'il fallait peut-être que cette gratuité soit vraiment mise en œuvre et pour les bons accompagnements, bien sûr, de tous ces enseignants et autres qui fonctionnent. Mais je trouve que ça allait avec les choses au même moment, c'est vraiment causer du tort au Parlement qui doit, n'est-ce pas, voter un budget conséquent quant à la gratuité de l'enseignement au niveau aussi pour les écoles d'application. Mais je trouve que presque impérieux, mais il fallait que les législateurs s'attèdent là-dessus pour pouvoir faire quelque chose vraiment de plus concret, de manière à ce que les choses réellement soient clairement bien définies. Je suis, par exemple, ici à Lubumbashi. Il y a une école d'application ISP. Mmh. Et je trouve que cette école, vous savez, et à un certain moment, je me dis, si l'État prend les choses au sérieux et que la gratuité est mise en œuvre nécessairement, officiellement et d'office, il faut que toutes les écoles-là d'application soient accompagnées par l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont ces écoles-là que l'État lui-même a conçues, a mis sur pied. Il fallait, pour qu'il y ait une formation adéquate, profitable à tous, il fallait nécessairement que ces écoles-là d'application puissent également bénéficier de cette gratuité. Maintenant, je suis en train de me poser la question. On est en train de chanter de cette gratuité, mais on est en train de voir qu'il y a des remous à gauche, à droite. Est-ce que le budget conséquent a été voté ou pas, parce que nous sommes en train de courir vers la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, lorsque les parlements pourra voter un budget conséquent, il fallait que l'État prenne des mesures. Il doit une question de pouvoir, n'est-ce pas, clairement définir ce point. Parce que je suis en train de voir que la gratuité, il fallait qu'on n'y aille pas en besogne, plus vite en besogne, mais il fallait qu'on y aille avec méthode. Voir est-ce que les enseignants, les écoles-là qui étaient jadis mieux payées, peut-être 800 000 francs par exemple, mais qui au jour d'aujourd'hui touchent moins et moins que ça, est-ce que l'État est à même de pouvoir répondre à leurs besoins? Ça, c'est un point.
Oui, mais Jérémy, parce qu'il y a quand même un signal, ouais. Lorsqu'on a payé, lors du premier, du premier paiement, du premier palier aux enseignants, les écoles d'application, dans la plupart, ils n'ont pas été concernés par ces paiements, ce qui prouve à suffisance que la gratuité ne peut pas être effective dans ces écoles-là.
Ah, mais il revient à l'État de saisir la balle. Bon. Question de pouvoir, n'est-ce pas, octroyer ou aligner ces écoles-là. Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de créer la corruption, ça et là. Il y a cela conforme dans ces institutions, par exemple, supérieures. Mais ils vont dans ces écoles, on appelle un professeur qui doit tendre la main à celui qui vient enseigner, mais c'est, qui vient soit participer à la pratique, ce qui est inconcevable et inacceptable. Il fallait que l'État prenne les choses au sérieux, parce que les niveaux supérieurs, c'est aujourd'hui qu'on doit remettre les choses sous les rails. Et nous en appelons au ministère du tutelle, et de pouvoir, n'est-ce pas, mettre les choses, les toilettages dans ces domaines, pour ne pas former plus tard des cadres qui seront que des cadres de figuration, des noms tout simplement, parce que notre pays a besoin de têtes bien faites et non de têtes bien pleines. Voilà la raison pour laquelle nous demandons à ce que l'État prenne ses dispositions, question de pouvoir tirer ces écoles-là vers lui, question de pouvoir leur octroyer tout ce qu'ils ont aussi en ce qui concerne la gratuité. Et je pense que les choses pourraient aller dans les bons sens.
Merci beaucoup, Jérémy. On prend Jonas qui est à Kadanga. Jonas, bonjour.
Bonjour, monsieur Pietre.
Vous avez la parole, Jonas. Éloignez-vous. Merci de là où vous êtes. Éloignez-vous, s'il vous plaît.
Oui, je suis...
Oui, allez-y rapidement.
Il y a un peu de... Oui, je vous en prie. Parce que je disais qu'il y a une école d'application à Kadanga, école d'application de l'université pédagogique, qui a vu jour il y a, je pense, 3 ans. Le recteur est en train de se battre pour mécaniser les enseignants qui sont en train de dispenser les enseignements dans cette école d'application. Mais il se pose un petit problème. Donc, les enseignants se demandent. Ils sont à l'école primaire, mais selon les discours des autorités, pardon, parce qu'ils sont à l'école secondaire, à l'EDAP, mais selon les discours des autorités, ils seront payés sur le listing de l'université pédagogique de Kananga. Alors la première question que je pose à l'invité, ces enseignants-là, ils auront maintenant quel statut? Seront-ils considérés, s'ils sont payés sur le listing de l'enseignement universitaire, seront-ils comme des administratifs, où ils n'auront que qualité? Et en plus, quand nous sommes maintenant sur le terrain, quand vous allez vous rencontrer des difficultés avec les élèves, parce qu'il y a la gratuité, les élèves ne veulent pas payer, ils vous disent que l'enseignement est gratuit. Et les enseignants maintenant sont butés à une difficulté telle que ils sont en train de travailler, ils ne savent pas si l'EDAP est une école privée ou elle répond aux critères de la gratuité comme prônée partout dans notre pays. Et maintenant, jusqu'à cet instant, dans la tête des enfants, il y a toujours le mot gratuité et il y a une certaine résistance de payer les frais. Et les enseignants eux-mêmes ne sont pas payés jusque-là. En plus, ils ne sont pas formés qualité. Alors, je voudrais demander que les victimes le disent. Si vraiment ces entraînements seront mécanisés, ou si par exemple, il y avoir une compensation avec le, entre le ministère de l'ESU et le ministère de l'EPSP, actuellement, des enseignants qui sont à l'EDAP, particulièrement à l'EDAP Kananga, seront-ils payés sur les signes de l'EPSP ou sur les signes de l'ESU? Et oui, s'il arrivait par voilà. exemple, oui, je termine par là. S'il arrivait par exemple qu'ils sont considérés comme, comme enseignants œuvrant à l'ESU, mais travaillant au département de l'EDAP, est-ce que ces enseignants-là peuvent aussi avoir la prérogative de avoir des échelons? Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation. J'entends votre question que vous vouliez me poser, je vous avais coupé le mot.
Merci beaucoup Jonas d'avoir appelé et d'avoir accepté d'intervenir. Alors on revient à vous, professeur Labana. Vous avez suivi les auditeurs, mais une question qui m'interroge l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui il faut attendre des instructions claires de la part du ministère de l'ESU pour qu'il y ait du calme du côté des écoles d'application, parce qu'il n'y a pas que des écoles d'application, il y a d'autres écoles spécialisées. Je peux prendre par exemple les écoles qui dépendent du ministère, par exemple de l'agriculture, des écoles primatechniques.
Ok, moi je parle tout simplement des écoles d'application, des universités, des instituts supérieurs. Exemple de notre ami de Kanangala, lorsque vous êtes engagé comme administratif à l'université et on vous détache pour une fonction à l'école d'application, vous êtes toujours considéré comme agent de l'université. Peut-être l'école d'application peut vous donner des primes de fonction que vous allez exercer là-bas. Mais il dit que ces enseignants-là ne sont pas mécanisés, on va les payer sur les listings d'enseignement primaire et secondaire. C'est ce que j'ai proposé. Il faut qu'il y ait un dialogue ou une négociation entre les deux institutions, enseignement supérieur, primaire et secondaire, clarifier les problèmes juridiques de la création et du fonctionnement de ces écoles. Si on veut, on doit prendre notre texte qui doit aller comme modèle de fonctionnement de ces deux institutions. Mais on ne peut pas toucher à l'enseignement primaire et secondaire, à l'université. L'État ne paye qu'une seule fois. Lorsque vous avez le matricule de l'État et que vous allez dans une autre fonction, on vous donne plus de matricule. Vous avez, on va vous octroyer des primes, mais les salaires vous touchez là où on vous a engagé.
Mais la réalité, professeur Labana, c'est vrai que la prise en charge d'ailleurs de parents n'a pas débuté à la création de ces écoles d'application, parce que c'est l'État qui prenait en charge ces écoles. Mais c'est plus tard, vers les années 90, lorsque le problème a commencé à se poser avec l'idée initié par les catholiques pour la prise en charge des enseignants par les parents, et c'est ainsi que cette vague a ramassé même les écoles d'application et d'autres écoles spécialisées. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas du mal de pouvoir l'extraire ou d'arrêter cette pratique au niveau des écoles d'application, parce qu'il s'agit là des écoles de l'État.
Mais c'est ce que nous disons. C'est une bonne idée, c'est une bonne vision du président de la République. Pour mettre de l'ordre, il faut que les écoles d'application qu'on change leur statut et qu'on bénéficie aussi de la gratuité pour bien contrôler, n'est-ce pas? Vous savez, les problèmes que nous avons dans le cadre de l'enseignement, c'est le paiement des parents. Mmh. Les parents nous prennent en otage. Moi, j'ai payé mon argent, mon enfant doit se réussir. Mmh. Voilà. Mmh. Si l'État revient à payer les enseignants, à donner des frais de fonctionnement à l'université, dans toutes ces écoles-là, on doit mettre les parents à l'aise pour chercher l'argent à aider l'enfant à payer des frais connexes, etc.
Est-ce que le comité de gestion contribue aussi au fonctionnement des universités, des frais de gestion, donc je disais, les comités de gestion des écoles d'application, contribuent aussi au fonctionnement, en finançant un peu quelques activités de l'université?
Oui, mais il y a un pourcentage. Quand vous allez dans les négociations de fixer
les taux de scolarité.
Il y a un pourcentage qui est prévu. Ça,
c'est une quantité qui tourne autour de combien à peu près?
Il y a une quantité aussi qui est prévue pour le fonctionnement. D'ailleurs, je remercie le Premier ministre qui a pris une décision que les écoles, que ce soit primaire et secondaire, ne vont plus participer au fonctionnement du ministère. Mmh. Ça, c'est une bonne chose. Mmh. On laisse l'argent à l'université, à l'école, pour le développement de l'école, mmh. le développement de l'université.
Voilà, on va poursuivre ce débat. Il y a Anselme, qui est le prophète de Mohamba, qui nous a rejoint également à ce niveau du débat, qui tourne autour des statuts des écoles d'application, et aussi Mardoché, qui est à Guadolité. Nous rappelons également à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent aussi participer à cette émission en composant les 081-890-6330, ou encore les 081-890-4969.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons également le plaisir d'accueillir Anselme Mbala, qui est le prophète de Mohamba, c'est-à-dire le responsable de la province éducationnelle de Mohamba. Monsieur Anselme, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Aujourd'hui, semble-t-il qu'il y a vraiment un bras de fer entre parents et gestionnaires du groupe scolaire Mohamba notamment. Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas?
Le problème qu'il y a chez les parents, c'est que pour eux, ils veulent que les parents du niveau des écoles du niveau universitaire soient dans la même considération que ceux des niveaux primaires et secondaires quant au paiement de frais par rapport aux mesures de gratuité. Pourtant, il y a une spécificité dans les lettres que nous avons reçues, même dans le rapport avec le ministre. Nous sommes de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les mesures de gratuité ont été prises pour les écoles de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais au Mohamba, ils ne veulent pas que leurs enfants soient pris à part. Étant donné qu'il y a deux ministères qui fonctionnent et qui gèrent les niveaux d'études et les niveaux techniques et du personnel administratif, il faudrait que les deux ministères aient un même point de vue, et ça, ce n'est pas à notre niveau de la gestion quotidienne. C'est dans la politique du gouvernement que cela doit être défini. À ce point-là, on n'a pas encore une issue, et c'est ça qui fait problème. On a organisé une assemblée générale des parents. Les parents, ils étaient très nombreux. Ils réclamaient que eux aussi, ils soient classés dans les mesures de gratuité, alors qu'ils ont un statut spécial, parce que le groupe scolaire de Mohamba, sur le plan pédagogique, dépend du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, alors que sur le plan administratif et sur le plan juridique, ils sont liés à l'université.
Est-ce que cette question n'a pas été abordée à la table ronde de l'enseignement, qui avait même levé l'option de la gratuité pour cette année?
À la table ronde, on n'a pas pu dégager un consensus parce que on avait ciblé les écoles de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Quoi qu'on a relevé la question des écoles d'application des universités qui dépendent sur le plan pédagogique de l'enseignement primaire, secondaire et technique, on n'a pas dégagé une proposition, une recommandation quant au paiement de ces écoles-là parce qu'on disait qu'elle n'était pas concernée par les mesures de gratuité.
Alors maintenant, comment sortir de cette crise?
Pour sortir de la crise, il faudrait qu'au niveau central du gouvernement, qu'on prenne une mesure qui doit fixer la décision pour ces écoles-là. Nous, en l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, je suivais le professeur Labana, nous avons un statut particulier qui n'est pas transférable à la fonction publique. C'est ça qui fait toute notre difficulté. Le numéro que nous avons, nous, est paraît comme un numéro privé qui n'est pas transposable à la fonction publique. L'identité SECOP de l'enseignant de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'arrête à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je ne peux pas quitter de l'enseignement primaire, secondaire, technique, aller à l'enseignement universitaire avec mon statut d'enseignant et garder le même numéro avec le même salaire. Non.
Voilà. Donc, à ce jour, il faudrait que les parents, comme le proposent certaines personnes, une tripartite entre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et celui de l'ESU, donc de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que les parents, pour voir et penser déjà à la voie de sortie de cette crise.
Les parents n'ont pas tort parce que eux, ce sont eux qui supportent les frais de scolarité de leurs enfants. Lorsque dans un environnement géographique, il y a des écoles qui payent moins parce qu'il y a des mesures de gratuité et que eux on dit qu'ils ne sont pas concernés par ces mesures de gratuité, ils ont à manifester leur ras-le-bol et ils veulent réclamer à tue-tête. Mais quitte au gouvernement central de prendre cette question et de l'envisager de manière à ce que l'on trouve un équilibre entre les décisions prises pour l'enseignement primaire, secondaire et technique et leur niveau au niveau universitaire.
Merci beaucoup Anselme. Nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'écouter Mardoché qui nous a rejoint également à ce niveau du débat. Mardoché, vous êtes à Guadeloupe. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Et bonjour hier et bonjour aussi à nos invités.
Quel est votre avis?
La question de la gratuité de l'enseignement est un droit constitutionnel. Mais il y a un problème qui se pose, que la gratuité que nous avons tous envie de voir effective est en train de poser certains problèmes. Quel est le premier problème? Vous allez voir que, bien qu'il y ait la gratuité, mais il y aura aussi un problème à ce que la qualité de l'enseignement dans notre pays s'empâtit. Comment? Vous allez voir l'effectif, comme il y a la gratuité, l'effectif d'abord dans la salle de classe est vraiment exagéré. Vous allez voir une salle de classe qui a 80, 100, voire même 70, et l'enseignant qui est là aura des difficultés à maîtriser tous les élèves qui se trouvent dans la salle de classe. Deuxième problème, prenons les écoles d'application. Bien sûr que c'est créé par des universités, mais les universités qui créent ces écoles-là sont des universités qui sont sous la gestion de l'État congolais. Mmh. Alors donc, l'État congolais a droit de prendre et les écoles d'application et d'autres écoles-là avec même mesure de gratuité pour favoriser aussi certains parents. Parce que vous allez voir, il y a certains parents qui ont des enfants à l'université, il y a certains parents qui ont des enfants dans des écoles d'application, et si les élèves qui se trouvent là-bas sont marginalisés, ça va encore causer des problèmes avec des parents. Vous allez voir qu'ici, dans notre province, le problème de la gratuité est en train de causer beaucoup de confusion. Il y a certaines écoles dont lorsqu'on parle de gratuité, certaines personnes disent que non, ça concerne seulement l'école primaire. D'autres disent que non, ça concerne l'école primaire et 7e et 8e année. Mais il y a certaines écoles ici dans notre province qui ne sont pas concernées, bien que ce soit des écoles publiques. Alors jusqu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne se sont pas encore situés sur quel type d'école est concernée par la gratuité et quel type d'école n'est pas concernée. Soit quelle salle de classe est concernée et quelle salle de classe n'est pas concernée. Alors si l'invité peut nous éclaircir...
Merci beaucoup, Mardoché. Alors on revient à vous avant de vous libérer, professeur Labada. C'est vrai, finalement, après avoir écouté les uns les autres professeurs, on se rend compte qu'on est dans une dynamique à confusion, parce que là, il s'agit d'une gratuité à géométrie variable, professeur. Même oui, au sein des écoles de l'enseignement primaire, les écoles de l'État.
Oui, effectivement, je vois que il y a un problème technique qui se pose pour l'application de cette gratuité, mais j'ai proposé tout à l'heure, il faut qu'il y ait une réunion de négociation entre le ministère de l'enseignement supérieur, les ministères d'enseignement primaire et secondaire, ce qui veut dire que les experts de l'enseignement primaire et secondaire, les experts des écoles d'application, des instituts supérieurs ou universitaires, doivent se mettre ensemble pour trouver un compromis.
Mais professeur, mais d'aucuns disent que ça serait une rencontre de trop, parce que la table ronde qui prenait en compte tous ces experts devait déjà régler tous ces problèmes pour une fois.
Mais le prophète l'a dit. Maintenant, ça sera
on va prendre, je donne la composition de cette commission-là, si vous voulez. Mm-hmm. On va prendre un représentant des parents, on va prendre un représentant des instituts, des écoles
d'application,
un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, un représentant du ministère primaire et secondaire. Voilà. Ce groupe restreint-là, pour deux ou trois jours, il peut proposer, et surtout ça sera, voir d'abord le problème juridique, les statuts. Il faut changer les statuts, comme a dit le prophète tout à l'heure. Les matricules ne concernent pas ceux qui sont dans les écoles d'application. Mmh. Il faut qu'on trouve, qu'on change l'ordonnance qui crée ces écoles-là. Mmh. Et on va appliquer la vision actuelle du chef de l'État pour la gratuité pour toutes ces écoles-là dans l'ensemble de la République.
Mmh. Voilà. Merci beaucoup, professeur Labana, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et merci pour avoir fait cette proposition d'une tripartite pouvant résoudre définitivement cette question qui commence vraiment à prêter confusion, la gratuité à géométrie variable. Merci beaucoup, professeur, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, on poursuit cette émission avec vous, Prudence, vous êtes à Bukavu. Prudence, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Il y a également une école d'application au niveau de Bukavu qui est sous tutelle de l'ISP Bukavu, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Donc moi-même, je suis enseignante, j'enseigne à l'EBAT ISP de Bukavu. C'est pourquoi le lycée m'intéresse beaucoup.
Oui, moi, vous avez la parole. Alors vous êtes enseignante, vous dépendez du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ou de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
À l'ISP de Bukavu.
Oui. Oui. Alors, comment ça fonctionne là-bas?
Moi, chez nous, c'est un problème parce que depuis le début, nous n'avons pas touché, surtout parce que nous ne sommes pas pris en compte par la gratuité étant dans l'EPSP. Il y a eu des ajouts, non, étant dans les SU plutôt. Alors qu'à l'EPSP, il y a eu des ajouts, mais chez nous, il n'y a eu rien. Nous avons même pris deux semaines de grève. Nous avons repris en attendant qu'il y ait de... Parce que nous avons été en contact avec notre comité de gestion de l'ISP. Mm-hmm. Parce qu'on a demandé qu'il y ait une clarification de notre statut. Parce que si j'étais en train de demander, il faut qu'il y ait une démarcation nette entre notre statut, est-ce que nous sommes de l'EPSP ou nous sommes de l'ESU. Et cela étant...
Donc vous estimez que cette ambivalence là vous crée du tort. Vous estimez que cette ambivalence là vous crée du tort.
Oui, ça nous crée du tort, surtout que les parents ne nous comprennent pas. Quand nous sommes parents, que nous ne recevons rien de l'État congolais, les parents ne comprennent pas. Ils disent qu'il y a eu des ajouts, mais des ajouts ont été à l'EPSP, ça n'a pas été à l'ESU. Et surtout que parmi nos collègues enseignants, il y a ceux-là qui ne sont pas mécanisés jusqu'à aujourd'hui, qui ne reçoivent même pas un rond. Voilà, c'est un problème que nous avons.
Donc le ministère qui a la charge de ces écoles d'application supplée par quelques montants. Mais lorsque nous suivons le professeur Labana tout à l'heure, qui disait que même les écoles d'application appuient également par une quantité les universités ou encore institut supérieur. Est-ce le cas aussi pour votre école d'application qui appuie l'ISP en réservant une quantité par rapport à la prise en charge des parents, des enseignants par les parents de DAP Bukavu?
Bien sûr, ça se fait de la même manière chez nous.
Voilà. Donc vous proposez que l'État fasse quoi concrètement? Parce qu'il y a les professeurs qui ont proposé une réunion.
Je propose concrètement qu'on redéfinisse les statuts des agents de l'EDAP, des écoles d'application, mais aussi qu'ils soient pris en charge si le gouvernement se décide aujourd'hui de prendre en charge tous les enseignants qui enseignent aux écoles secondaires, parce que tout un état à l'échelle, à l'enseignement supérieur universitaire, nos écoles sont aussi contrôlées par l'EPSP. L'EPSP envoie des inspecteurs, nos étudiants font tous nos élèves plutôt, ils passent des examens d'état comme ceux-là qui sont à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je crois qu'il y a une façon de faire une gestion consensuelle, comme disait le professeur, qu'on crée quelque chose de commun entre les deux ministères pour voir comment gérer, parce que déjà au niveau des examens d'État, on les fait ensemble, il n'y a pas de problème. Et donc au niveau aussi des paiements, je crois que ça peut se faire.
Il faut que ça soit consensuel.
Il faut qu'on les fasse vite, parce que déjà nous, ça fait deuxième mois et nous savons pas. Nous
est-ce que ça risque, de ne pas, est-ce que ça ne risque pas d'impacter sur les calendriers scolaires?
Évidemment, et c'est pour éviter qu'il y ait cet impact, il faut que le gouvernement agisse vite.
Et agisse vite. Merci beaucoup, Madame Prudence, d'avoir appelé des Bukavu. Henri, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue, Henri.
Oui, alors.
Henri, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Ah, oui, bonjour.
Quel est votre avis, Henri?
Alors, vous sortez en tête coupée, vraiment.
Alors, on reviendra à vous, Monsieur Anselme. Monsieur Anselme. Vous avez suivi les uns les autres. Aujourd'hui, je crois que l'option doit être levée de pouvoir trouver un consensus entre les deux ministères pour aider finalement cette crise à finir, notamment au niveau du groupe scolaire Mohamba et dans d'autres écoles d'application qu'on venait de suivre aussi l'ensemble des auditeurs qui intervenaient à travers le pays. Anselme Mbala.
Oui, Mbemba Mabala. Oui, c'est vrai. La proposition de conciliation entre les ministères au niveau du gouvernement central, c'est celle-là qui va résoudre le problème. Parce que pour le cas du Mohamba, il y a un problème spécifique d'enseignants non payés qui sont déjà mécanisés. Ils sont en grand nombre, 168 d'après le directeur, le DG. Et 45 nouvelles unités non encore mécanisées. Ça fait 200 enseignants qui sont totalement pris en charge par les parents. Au lieu que ce soit une motivation complémentaire à ce que l'État payerait, mais ceux-là sont totalement pris en charge par les parents. Ce qui fait que les frais exigés aux parents soient élevés. Et dans un environnement qui est... soumis aux mesures de la gratuité, les parents ne pourront pas accepter les taux qu'on leur impose de payer. Ils ont raison, mais la solution ne viendrait pas de cette mesure de l'enseignement de primaire et secondaire technique. Plutôt au niveau universitaire, il faut qu'on arrive à payer ces enseignants-là qui sont encore là, qui travaillent depuis plus de 5 ans, qui ne sont pas payés. Ils sont considérés parmi le personnel technique. Parce que à l'université, ils ont le personnel scientifique qui ont beaucoup d'avantages. Le personnel technique crie toujours pour faire des réclamations. Et quand nous comparons ces enseignants du personnel technique de l'université par rapport aux enseignants du primaire, secondaire et technique, ces enseignants qui sont dans les écoles d'EDAP sont mieux payés que les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, il y a une différence. Si on pouvait arriver à harmoniser d'après la politique de l'État, ce sera une solution qui serait consensuelle et mettrait les parents à l'aise.
Nous avons Siméon qui nous a également rejoint, Anselme. On va l'écouter. Siméon, vous êtes à Guadolité, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis, Siméon?
Oui. Merci pour m'avoir accordé la parole pour participer à ce débat. Moi, je pense que cette mesure de gratuité, c'est une mesure gracieuse. Ça fait venir pour alléger nous les parents. Mais quant à moi, je pense que c'était précipitamment prise parce que ça nous a pas jusque là vraiment allégé. Je prends le cas précisément pour nous ici à Guadeloupe. Il y a des écoles qui prenaient par cette mesure, par ce paiement, par le paiement des parents, qui prenaient plus d'enfants. Ils ont ajouté des statuts, le nombre d'enseignants qui devraient être pris en charge par ce paiement, et ils avaient beaucoup d'enfants dans des écoles publiques qui payaient moins. Mais avec cette mesure de gratuité, vous vous rendrez compte que ces écoles ont réduit leur structure, ils ont repoussé les enfants, et ces enfants-là doivent présentement aller dans des écoles privées. Mais il y a des parents qui ne peuvent pas prendre en charge les enfants dans les écoles privées, vous voyez. Alors moi, je pensais qu'il fallait que le gouvernement puisse penser à cela bien avant de lancer ça pour... penser à construire des écoles, augmenter le nombre d'enseignants, mécaniser ce qui n'était pas encore mécanisé pour prendre en charge les enfants qui devraient affluer par cette mesure
De gratuité. Merci beaucoup, Sibeyo. Alors, Pascal, vous êtes à Bounia. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, la radio. Et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre contribution, Pascal?
Bon, ici à Bounia, nous avons un problème. Est-ce que l'invité peut nous dire d'abord la différence de l'école là d'application et de l'État aussi? Parce que ici, par exemple, à l'ISP, on appelle ça école primaire de l'ISP Bounia, peut-être c'est prise à charge par les institutions supérieures. Mais qui reçoit aussi les primes de l'État depuis ces temps, et même pour ces dates de budget aussi actuelles, là, de la gratuité, qui est toujours là. Alors, on nous a fait payer ici les parents $10 de construction. Est-ce que aux parents de continuer toujours à construire l'ISP Bounia, ou bien c'est dans les prix aussi des chefs de l'État comme nous attendons?
Merci beaucoup.
Il y a même... personne ne parle.
Oui. Voilà.
Mais écoute, là, personne ne parle. On a appelé même la fois passée, on attendait la suite. Est-ce que l'invité peut nous dire comment nous pouvons récupérer nos $10? Parce que quelqu'un qui a, par exemple, 6 enfants, il a payé $60 et pourtant nous attendions la gratuité.
Alors, $10 pour comme frais de construction de l'école?
Oui, oui.
Merci beaucoup, Pascal. Vous posez la question sur les statuts d'ailleurs de ces écoles d'application. Est-ce, ce sont d'ailleurs les écoles privées ou publiques? Parce qu'on sait qu'une école publique, c'est celle qui reçoit des subventions ou encore des frais de fonctionnement de l'État, ou même les enseignants sont pris en charge par l'État. Est-ce que c'est le cas avec des écoles d'application? Nous allons en savoir un peu plus avec Anselme, mais il est temps d'écouter également Henri. Je crois que la ligne s'est améliorée. Henri, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis Lemba.
Vous avez la parole, Henri.
Je suis à partir de Lubumbashi et nous avons vraiment des regrets de nos dirigeants provinciaux, pas de nos dirigeants nationaux. Ce qui cause les problèmes actuellement pour la gratuité puisse s'appliquer en sa totalité, ce sont des dirigeants provinciaux. Vous prenez un cas, un ministre provincial de l'éducation, qui ne s'occupe pas de faire le suivi pour la gratuité de l'enseignement. Pendant que le ministre national a lancé ce message, ce sont eux maintenant qui peuvent aider le gouvernement national à faire appliquer la totalité de la gratuité de l'enseignement. Un exemple, vous allez trouver, il y a des écoles qui ont accepté que les enfants puissent étudier gratuitement. Et il y a des écoles où on fait en cache-cache des récits, et même les parents politisés qui sont dans des écoles ou des, par exemple, des écoles catholiques, des écoles déconventionnées, ils entêtent même des professeurs, même des enseignants, même des directeurs pour dire que nous sommes telle famille, nous obligeons toujours que nous commençons toujours à payer. Ça ne se fait pas comme ça dans un pays. Et tout le monde attendait les changements. Aujourd'hui, nous avons déjà ces changements-là. Qu'est-ce qui peut aider que ces changements-là soient vraiment dans sa totalité?
Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Oh, Mario. Oh, tout le monde,
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons cette émission avec vous, Anselme, prophète de Moamba. Vous avez suivi les auditeurs, mais il y a quand même quelques confusions qui taraudent quand même les esprits des uns des autres. Tout le monde aimerait savoir la différence qui existe entre une école privée et une école publique. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles d'application, comme vous le dites, fonctionnent de manière spécifique? Est-ce qu'il s'agit d'une école privée?
Merci pour la question. Les écoles de l'enseignement supérieur et universitaire qui sont rattachées à l'université ne sont pas des écoles privées. Ce sont des écoles publiques parce que le personnel administratif et enseignant de ces écoles est pris en charge par l'État, par les finances publiques. Du point de vue pédagogique, ils participent aux évaluations certificatives organisées par l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est ça qui fait la différence avec les écoles de l'enseignement primaire, secondaire. Ces écoles de l'enseignement supérieur et universitaire ne sont non de commun avec l'enseignement primaire, secondaire et technique que sur le plan pédagogique. Au niveau du programme qu'ils suivent, le niveau de test d'évaluation, les évaluations certificatives, c'est l'enseignement primaire, secondaire qui s'en charge. Mais quant au paiement des enseignants dans ces écoles-là, ils obéissent au statut des universités. L'affectation des dirigeants, des enseignants de ces écoles-là provient de l'ESU. Ce n'est pas de l'enseignement primaire et secondaire. Là, cette précision, je crois...
Mais quand vous dites qu'il s'agit d'une école publique, l'article de la Constitution parlant de la gratuité évoque la gratuité qui doit s'appliquer au niveau des écoles publiques.
Oui.
Donc le débat qu'on engage aujourd'hui sur cette question, même au niveau des écoles d'application, n'est pas démis ce débat.
Non, monsieur Cher, je crois que la question va évoluer. L'application de mesures de gratuité se fait en plusieurs paliers. Même pour l'enseignement primaire et secondaire, c'est un premier palier et nous sommes rassurés qu'au deuxième palier, il va y avoir des changements par rapport à l'observation de tout ce que nous avons observé comme problème sur le terrain à l'application du premier palier. Ces écoles-là, ce sont des écoles publiques, c'est vrai. Dans la Constitution, il est dit que l'enseignement primaire public doit être gratuit. Dans la Constitution, c'est bien dit. Mais pour la loi cadre qui concerne aussi l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement universitaire, il a été dit que tout l'enseignement de base doit être gratuit. Mais dans l'application, parce que cette gratuité a un coût, si on prend toutes ces écoles-là et que l'enveloppe financière, le paquet financier qui doit prendre en charge cette gratuité, dès le premier instant n'est pas suffisant, on y va par étape. On s'est engagé à appliquer toutes ces mesures de gratuité, on y arrivera et l'État réussira, je suis certain, parce qu'on a parlé de paiements innovants, des interventions de l'extérieur, de sorte que l'on puisse amener dans cette enveloppe du budget de l'enseignement un plus pour prendre en charge totalement toutes ces questions-là. Ça va évoluer. Et ce que l'on propose là, que l'on puisse voir le ministère de l'enseignement supérieur universitaire de sorte que ce qui a été fait à l'enseignement primaire soit encore fait à l'enseignement supérieur, ça va être fait. De la même façon, je répondrai à l'auditeur de l'Équateur qui disait que les écoles qui sont concernées par la gratuité, ça prête à confusion. Il n'y a pas de confusion possible. Ce sont les écoles primaires publiques qui sont prises en charge par l'État. Les classes de 7e ou 8e au premier palier ne vont être concernées par la gratuité.
Merci beaucoup, Anselme Mabala. Je crois que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le prophète de Mohamba, là où le problème se pose au niveau de la gratuité avec le groupe scolaire Mohamba. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté cet éclairage à chacun de nous. Merci et à très bientôt.
Merci bien.
Voilà, on prend rendez-vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Le débat se poursuit sur www.radiocapi.net. À très bientôt.